Yeah. Oh. You never had it easy, I know. But I still remember you and what we used to say. So I say this is my song for you, my friend. You can only see that I can hardly let things go. No, oh yeah. So listen to the sound of my voice. You better send him all my love. He's giving me no choice. No, no, no. As a freedom fighter, he's handling the choice, and I know that the dear Ragamuffin is a one-off friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. The dear Ragamuffin, shall I not fall down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good and see on the ground? Yes, you never had it easy, I know. Still remember you and what we used to have. So I say this is my song for you, my friend. Get yeah, yes. Oh, 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 oh yeah. Oh, 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 yeah. And oh, 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 yeah. One of the friend, what you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. Dear Ragamuffin, should I not fall down?
Les familles homoparentales sont une réalité. Et on voit souvent ces familles homoparentales qui ont encore cette difficulté à pouvoir simplement dire ce qu'elles vivent. Il y a souvent beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait encore des discriminations en la matière.
Protégeons notre histoire dont nous sommes si fiers et alors viens, allons leur prouver que deux hommes qui s'aiment peuvent être pères, peuvent être pères, peuvent être pères.
Le souffre-douleur du quartier, la tablette qui se fait frapper, la tafiole, le type pété, mon petit nom s'est enculé.
Dans la tête, les chanteurs ont sorti les machettes. Brian Williamson, son péché aimait d'autres hommes. Caribéen mâle au tropique, il faudra fuir ta Jamaïque. Fuir, fuir ta Jamaïque, fuir, fuir ta Jamaïque, fuir, fuir ta Jamaïque.
L'amour n'a pas de frontières. J'adore mon gars, j'aime mon gars.
Toi-même tu es quoi, hein? Pédale.
Tu es fou de moi,
bébé.
Je suis fou de toi,
bébé.
Tu es fou de moi,
bébé.
Je suis fou de toi,
bébé.
On est fou de nous,
bébé.
Je suis fou de toi,
bébé.
Aïe.
On sent que pour l'émission Quasar on the Air, l'émission de l'association Quasar, le centre LGBTI plus d'Angers. Alors bah comme tous les jeudis, enfin non, un jeudi sur deux plus exactement, vous retrouvez l'équipe de Quasar on the Air, c'est-à-dire Achille aux manettes, Anne, Mohamed et moi-même Arnaud, pour vous accompagner une heure durant. Et je crois que ce soir, l'émission va consister à vous donner de l'actualité, actualité qui parfois sera sportive, me semble-t-il. Alors bonsoir à tous, bonsoir Mohamed.
Bonsoir Arnaud.
Je me trompe pas, hein, tu vas nous parler sport justement, en particulier.
Ouais.
Bonsoir Anne.
Bonsoir Arnaud, bonsoir tout Achille, le monde. Et moi je vais parler sport aussi, il n'y a jamais eu autant de sport dans cette émission.
Très bien, ce sera un peu plus léger et on en a bien besoin en cette période où on va surtout penser cadeaux, cocooning, feu de cheminée, chaleur, ouais, voilà. Et puis bonsoir à Achille.
Bonsoir, bonsoir.
Voilà, donc une heure d'émission.
Et le public.
Et le public. C'est vrai, le public. Voilà, donc bienvenue encore une fois. Et donc je ne sais pas qui commence, c'est toi Anne me semble-t-il.
Eh bien écoute, on va commencer les news à nous trois. Une fois n'est pas coutume, ça va être chaud, mais exactement. On va y arriver.
Ouais.
Alors là, cette fois-ci, c'est extraordinaire. La dernière fois, j'ai fait des brèves et vous, des tu peux plus long, et cette fois-ci, bah, c'est vous qui avez fait les brèves. Mmh. Mais quelle équipe de l'enfer.
On est bien complémentaires.
Ah bon, Arabie Saoudite, ouais. Une amélioration. Mmh. Dans une vidéo promotionnelle partagée par la présidence saoudienne de la sécurité de l'État sur Twitter, les responsables gouvernementaux d'Arabie Saoudite ont opéré un recul relatif en qualifiant le féminisme d'extrémisme plutôt que de crimes. Mais l'homosexualité et l'athéisme, eux, bien sûr, sont toujours qualifiés de crimes. Le féminisme n'est donc plus un crime en Arabie Saoudite. Bon. Ce changement, très relatif, encore une fois, hein, s'inscrit dans une stratégie qui vise à adoucir l'image du royaume ultra-conservateur vis-à-vis de l'étranger en particulier. L'Arabie Saoudite punit l'homosexualité et le travestissement à coups d'amende, de coups de fouet publics, de castration chimique, de peine de réclusion à perpétuité et même de peine capitale. Le prince héritier Mohamed Ben Salman, un progressiste, commence à imposer une forme plus modérée d'islam et a même admis que l'Arabie Saoudite n'avait pas été normale au cours des 30 dernières années. Le prince héritier nous a dit « Ce qui s'est passé au cours de ces 30 dernières années n'est pas l'Arabie Saoudite. Ce qui s'est passé dans la région au cours des 30 dernières années n'est pas le Moyen-Orient », a-t-il déclaré lors d'une interview avec le quotidien The Guardian. Après la révolution iranienne en 1979, les gens voulaient copier ce modèle dans différents pays, dont l'Arabie Saoudite. Nous ne savions pas comment nous en occuper et le problème s'est répandu dans le monde entier. Le moment est venu de s'en débarrasser. Bon, espoir, câlin, pourvu qu'il aille plus loin.
On croise les doigts.
À vous, messieurs. C'est lequel ?
Eh bien, Mohamed, donc tu vas nous parler de quoi précisément pour commencer ?
Bah alors Arnaud, aujourd'hui, je viens nous parler de l'Afrique, d'Info d'Afrique, notamment d'Ouganda et d'e-sport. Alors pour commencer, nous allons commencer par l'Ouganda. Selon le site lgbtinfo.com, en Ouganda, 127 personnes ont été arrêtées lors d'une soirée gay à Kampala. Elles ont été arrêtées le week-end dernier dans un bar gay friendly à Kampala dans le cadre des raids policiers supposés lutter contre le trafic de drogue. Les clients du Ram Bar ont été arrêtés, présentés aux médias et détenus toute une nuit dans un poste de police. La descente de police était censé lutter contre la consommation de drogue, mais les activistes homosexuels parlent d'un coup ciblé contre les LGBT. Sur les 127 personnes arrêtées, deux ont été libérées et les autres ont été détenues toute la nuit. 67 devraient être inculpés. La soirée du dimanche est considérée comme la soirée gay du bar avec des centaines de visiteurs LGBT. À cette occasion, mais un porte-parole de la police a déclaré à la BBC lundi qu'il ignorait le caractère gay de la soirée et qu'il s'agissait simplement de réprimer des violations de la loi sur les stupéfiants, pardon, c'est le français.
Stupéfiants,
voilà.
Ces arguments n'est qu'un prétexte pour cibler réellement les communautés LGBT, a commenté le Kouchou Time, qui ajoute « Étant donné les nombreux bars dans et autour de Kampala, où la chicha est maintenant offerte illégalement en Ouganda, on ne peut que se demander pourquoi le RAM a été ciblé pour cette opération. » Fin de citation. La police a publié une vidéo dans laquelle on voit des dizaines de personnes dissimulant leur visage. Pour beaucoup de ces personnes, afficher leur homosexualité présente un risque important pour leur sécurité dans un pays très homophobe. Le Kouchou Time parle d'une chasse aux sorcières croissante. Il y a à peine deux semaines, la police a arrêté 16 personnes dans un refuge pour homosexuels à la périphérie de Kampala et les avait accusées d'actes homosexuels. Ils ont ensuite été libérés sous caution. En octobre, il y avait eu plusieurs attaques violentes contre les gays, les lesbiennes et les transgenres à travers le pays, notamment contre les militants LGBT. Brian Wazwa, qui a été passé à tabac par la foule à son domicile, et a succombé à ses blessures.
Et comme un malheur n'arrive jamais seul, et on le vérifie en Ouganda, tu as une autre mauvaise nouvelle en provenance de ce pays, n'est-ce pas Mohamed ?
Oui Arnaud, en effet, 16 militants ougandais LGBT contraints à des textes anneaux. Ils ont été soumis à des textes anneaux forcés après avoir été arrêtés, puis ensuite remis en liberté, a annoncé jeudi le principal organisation de défense des droits des homosexuels du pays. Les 16 hommes ont été interpellés par la police lundi pour les protéger d'une foule homophobe qui avait encerclé la maison où ils se trouvaient. Ils ont ensuite été arrêtés pour infraction à la loi anti-homosexuelle datant de l'époque coloniale. Un porte-parole de la police, Fred Ananga, a déclaré qu'il avait été remis en liberté jeudi soir. Le porte-parole de la police, Patrick Oyango, avait indiqué à l'AFP qu'à la suite de nouveaux développements fondés sur les examens médicaux, il est établi que les suspects ont été impliqués, dans les actes sexuels punissables au terme du code pénal. Les hommes membres d'un groupe appelé Let's Walk Together ont été détenus au-delà du délai de 48 heures sans audition au tribunal. Selon l'ONG Human Rights Watch, les examens anneaux constituent une technique discréditée depuis longtemps, qui a pour but de déterminer si quelqu'un a eu des relations homosexuelles afin de disposer de preuves pour le poursuivre en justice. Selon l'organisation SMUG, les attaques contre les personnes LGBT ont fortement augmenté au cours des dernières semaines, depuis les déclarations du ministre ougandais de l'éthique Simon Lokodo, qui souhaite l'application stricte de la légalisation contre les homosexuels.
Ok, merci Mohamed pour cette info. Alors maintenant c'est Anne qui va nous parler sport, si j'ai bien compris.
Où en sommes-nous ? 20h, quelle heure il est ? Parce que je ne vois pas l'heure. Maintenant on va continuer un petit peu dans les news. Alors je vais vous parler de thérapie de conversion parce que c'est quand même un grand sujet en ce moment.
Ouais.
Donc, au Canada, c'est vrai qu'on aime bien le Canada en général pour tout ce qui est progrès. Dans une lettre adressée au secrétaire de la justice canadien, Justin Trudeau a énuméré un certain nombre de priorités qu'il attend des responsables gouvernementaux. Parmi elles, la modification du code pénal afin d'interdire les thérapies de conversion des personnes LGBT et la prise de mesures pour mettre définitivement fin à cette pratique. C'est ça que tu voulais. excusez-nous, petit trafic de câbles. Donc, mettre définitivement fin à cette pratique dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Les experts médicaux considèrent que les interventions visant à modifier l'orientation sexuelle d'une personne sont pseudo-scientifiques et inefficaces, et souvent profondément nocives pour les personnes qui y sont soumises. Plusieurs provinces canadiennes ont déjà mis des restrictions sur les formes de thérapie de conversion, mais le pays n'a pas encore d'interdiction pure et simple. L'année dernière, 70 000 Canadiens ont signé une pétition demandant au gouvernement de les interdire, mais elle a été rejetée par le gouvernement fédéral qui a soutenu qu'il s'agissait en grande partie d'une question provinciale et territoriale. Ça, c'est vrai que les gens qui ont du gouvernement fédéral et des gouvernements locaux réellement puissants, c'est toujours la même chose, hein, c'est comme aux États-Unis, c'est toujours un peu compliqué. La décision du Premier ministre, récemment réélu, d'aller de l'avant avec une interdiction totale a été saluée par les militants et alliés LGBT canadiens. Le social fait partie des prérogatives des provinces. Et là, le fédéral se mêle de quelque chose qui est social, mais qui est aussi une question de liberté. Et les libertés, ça concerne le fédéral. C'est un petit peu compliqué, mais on y arrive toujours. Il s'agit d'une véritable occasion pour le Canada de faire preuve de leadership sur la scène mondiale lorsqu'il s'agit d'adopter la législation la plus stricte du monde pour démontrer clairement que la thérapie de conversion n'est pas à sa place dans notre société ou notre civilisation, a déclaré le professeur Christopher Wells, opposant de longue date aux thérapies de conversion. Justin Trudeau a également exhorté le secrétaire à la justice à développer des possibilités, il y a des fantômes dans le studio, à développer des possibilités de recours juridique pour les victimes de discours de haine. Voilà une belle avancée et je vous en reparlerai après.
Alors plus léger maintenant, de bonnes nouvelles en provenance du Brésil, c'est bien ça Mohamed ?
Oui justement, mais avant d'arriver au Brésil, j'aimerais rappeler que Quasar n'est pas les seuls à organiser des championnats de foot 100% gay. au Brésil, on parle d'un championnat de foot pour joueurs LGBT. On dit le pays le plus titré de la Coupe du Monde de foot est roi. Ce sport est traditionnellement associé à la virilité, un jeu pour les hommes hétéros où des insultes homophobes sont courantes.
Non, tu crois toi ? Moi, j'en ai jamais entendu parler.
Justement,
Tu n'as jamais été voir un match de foot.
Exactement.
Je ne vais pas aller dans les détails, mais on s'en souvient encore des banderoles et tout.
Bien sûr, bien sûr.
Voilà. Il est mal vu pour les femmes de jouer et elles sont souvent ridiculisées quand elles le font. Pour les personnes LGBT, le football, c'est encore plus simple. Ce sport n'est pas pour eux. Pourtant, un nouveau championnat de football est né il y a un mois, le championnat Ligue du Brésil. La Ligue est la première ligue brésilienne qui voit s'affronter des équipes de football dont tous les joueurs sont gays, bi ou trans. L'initiative vient d'une association LGBT, fan de foot. Le premier club gay a été créé à Rio. Il s'appelle le Bechket Xoxaboy. L'équipe a été fondée en mai.
Tu as un parfait accent brésilien, dis donc.
Je parle portugais. Voilà, a été fondée en mai par André Machado, originaire de São Paulo, qui avait joué avec une équipe gay dans sa ville natale et qui se sentait frustré de ne pouvoir jouer quand il a déménagé à Rio. Le premier jour d'entraînement, 15 spectateurs avaient fait le déplacement. Au quatrième jour, il était 150 à assister à l'entraînement. 6 mois après la naissance de ce premier club, on compte aujourd'hui 16 clubs de foot gays au Brésil, tout composé de joueurs gays ou trans. Mieux encore, les Bechket de Rio ont rejoint le championnat amateur de Rio. Fait marquant, ils ont été très bien accueillis par les organisateurs. Sur Facebook, en revanche, la nouvelle de leur participation a soulevé quelques commentaires hostiles, voire même des menaces de mort. Ce qui n'intimide pas plus que ça, les joueurs gays, qui se voient comme des joueuses de foot qui, elles aussi, ont mis du temps à se faire accepter. Le seul vrai problème de la Ligue gay, c'est l'absence de ses supporters. Il y a quelques mois, en effet, une banderole arc-en-ciel déployée dans un stade devait susciter des bagarres.
Alors ben justement, tu parlais des joueuses aussi de foot, c'est une bonne transition avec ce dont nous parlera ce soir Anne. Et alors, en attendant, toujours au sujet du football, et parce que le Brésil n'est pas le seul pays à remporter la Coupe du Monde, n'est-ce pas ? Tu as une seconde bonne nouvelle venant d'un joueur international franco-guinéen, champion du monde lui aussi, avec l'équipe de France.
Ouais, justement Arnaud, on revient un peu vers chez nous, comme tu l'as dit, voilà. Il s'agit de ce joueur. Paul Pogba, voilà, international franco-guinéen. Dans le cadre de sa nouvelle campagne, Equal, l'EFA veut faire changer les mentalités du sujet tabou de l'homosexualité dans le football. Le mot d'ordre, promouvoir la diversité et rendre accessible le football à tous. Quatre joueurs et joueuses, la Norvégienne de l'OL, c'est-à-dire l'Olympique lyonnais, Ada Hegerberg, on a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Paul Pogba ont accepté d'en devenir des ambassadeurs. Interrogé à l'occasion du lancement officiel de cette campagne, Paul Pogba a évoqué pour la première fois l'homosexualité dans le football. Répondant à une question sur le possible coming out de joueurs, il a lancé « Je n'ai jamais vu cela, mais pourquoi pas ? Chaque joueur est un être humain et qu'il ressent fait partie de sa vie privée. » Tout cela n'a pas de rapport avec le joueur. Nous devons juste respecter. S'il vous respecte, vous devez le respecter, c'est tout. En janvier dernier, le patron de la Fédération anglaise de football avait lui aussi évoqué le sujet. Dans le Time, il avait dit que l'un des meilleurs moyens pour lutter contre l'homophobie dans le football serait que les joueurs homosexuels fassent un coming out collectif. Jusqu'à présent, Justin Fashanu, c'est de l'anglais, je m'excuse, qui s'est suicidé en 1998, reste l'unique joueur en Angleterre à avoir révélé son homosexualité durant sa carrière professionnelle. En 2014, c'est la star allemande Thomas qui avait révélé son homosexualité. Être gay est un sujet qui est ignoré dans le football et non pas un sujet sérieux. L'esprit combatif, la passion, la mentalité de vainqueur ne correspond pas au cliché selon lequel les gays sont des poules mouillées, avait-il expliqué au journal Die Zeit. Il avait cependant attendu d'être à la retraite avant de faire son coming out. L'américaine Robbie Roger est le seul joueur en activité à avoir fait part de son homosexualité. Paul Pogba n'est pas le premier joueur français à aborder cette question dans les médias. Dans un entretien accordé au magazine Icon, en juin dernier, Antoine Griezmann, reconnu sur le nom de Grisou, avait expliqué « Je pense que ce n'est pas habituel parce que nous faisons les durs et les forts. Nous avons peur de ce que nous faisons. Nous avons peur de ce qui pourrait se dire. Je m'excuse. Je ne dirai rien contre. Je respecte tout le monde. » Il avait ensuite indiqué que le sujet était certainement encore tabou parce qu'en revenant, parce qu'en revenant, voilà, c'est le français, hein, l'air homosexualité, je m'excuse, les joueurs pourraient être confrontés à un flot d'insultes de la part de mauvaises personnes. Et Antoine Griezmann, Grisou, ajoute, je crois que je révélerai mon homosexualité, mais bien sûr, bah, c'est facile à dire quand tu ne l'es pas.
En effet, comme disaient les nuls à une époque où tu n'étais pas encore né, de bien belles paroles, Mohamed.
Justement.
Alors Anne, on enchaîne d'autres actus, je t'écoute.
On enchaîne avec d'autres actus. Alors je vais continuer donc sur mon truc du moment. Les thérapies de conversion. La France disposera-t-elle prochainement d'une législation interdisant les thérapies de conversion ? Ces pratiques qui visent à modifier l'orientation sexuelle des personnes LGBT sont très répandues aux États-Unis, mais elles existent aussi en France, comme l'a très bien montré un documentaire récemment diffusé sur Arte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était absolument génial. Donc il est encore visible sur Arte, sur le web. Et il est encore en replay, si vous avez ça. Alors donc, franchement, trouvez-le et voyez-le, c'est vraiment très très bien fait. C'est flippant un peu. Alors, faisant le constat qu'aucune loi ne les encadre, deux députés, l'une de la majorité, Laurence Vanceunebrock-Meyalon, LREM, l'autre de l'opposition, Bastien Lachaud, France Insoumise, ont entrepris de plancher sur le sujet avec l'objectif de faire interdire ces pseudo-thérapies de conversion. Ils ont conduit depuis septembre dernier une mission parlementaire, vous en avez déjà un peu parlé, qui a permis d'auditionner une soixantaine de personnes pendant plus de 40 heures. Auditionnée par les députés, l'association Le Refuge, qui héberge des personnes homosexuelles rejetées par leur famille, a ainsi expliqué avoir reçu sur sa ligne d'écoute une moyenne de, une dizaine d'appels chaque mois en 2019, en forte hausse par rapport aux années précédentes. Alors, SOS Homophobie aussi, bien entendu, et nous avons été en contact aussi avec... c'est-à-dire que toutes les associations ont reçu
au moins des
appels ou des gens qui ne l'ont pas vécu mais qui sont effrayés, ou des gens qui sont croyants et qui ne savent comment faire pour empêcher ça. Enfin bref, il y a énormément de gens qui sont concernés par ces histoires de thérapie, de soi-disant thérapie de conversion. Si une étude américaine de janvier 2018 estime à 700 000 le nombre de victimes rien qu'aux États-Unis, il n'existe aucune mesure objective du phénomène en France, regrettent les parlementaires, rappelant la réticence de nombreuses victimes, parfois sous l'emprise de proches, à porter plainte par crainte des représailles et aussi parce qu'ils sont complètement chamboulés, totalement, c'est du lavage de cerveau, hein. C'est vraiment quelque chose d'ignoble. Ajouter cette infraction dans le code pénal permettrait d'améliorer la lisibilité statistique du problème et pourrait libérer la parole des victimes et mieux sensibiliser les associations LGBT, encore trop peu informées selon les deux rapporteurs. À défaut, la mission préconise à minima d'assimiler les thérapies de conversion au délit de harcèlement sexuel ou d'en faire une circonstance aggravante pour les faits de violence réalisés sur des mineurs de 16 à 18 ans. L'homosexualité exclue en France depuis 1992 de la liste des pathologies psychiatriques est toujours considérée comme une maladie par les promoteurs de ces soi-disant thérapies de conversion qui couvrent un spectre très large de pratiques souvent insidieuses, classées en trois catégories. Des thérapies religieuses principalement organisées par les associations Torrent de Vie, souvenez-vous de ce nom et méfiez-vous-en, c'est dommage, c'est joli, protestantes évangéliques et Courage, ça alors ceux-là ils sont très forts, ils ont choisi un très joli mot, qui sont catholiques, consistent à convaincre les participants qu'il est possible de se convertir à l'hétérosexualité ou d'encourager l'abstinence sexuelle si on n'y arrive pas. Parce que Dieu n'a rien contre les homosexuels du moment qu'ils ne font pas... excusez-moi, c'est vrai que les homosexuels ne font pas l'amour pour ces gens-là, bien entendu. Hein, du moment qu'ils ne baissent pas à couilles rabattues, même les femmes. Les personnes LGBT, juives et musulmanes sont également touchées. La mission a également entendu des témoignages de personnes ayant été victimes ou témoins d'exorcisme. Et a pris connaissance de faits de viol, d'excision et d'appel au djihad, expliquent les parlementaires. Des thérapies médicales soumettent les victimes, parfois gavées de médicaments, à des séances d'hypnose ou d'électrochoc. Enfin, les thérapies sociétales, avec recours au mariage forcé. Face à cette situation, les rapporteurs conseillent donc de former les magistrats, les policiers qui ne connaissent pas ces pratiques, pour qu'ils puissent recueillir des plaintes. Il souhaite aussi renforcer l'éducation sexuelle à l'école où la question de l'homosexualité est rarement abordée. Mais la mesure la plus symbolique mise en avant par le rapport pour sanctionner les auteurs est la création d'un nouveau délit spécifique dans le code pénal. Cela aurait une valeur symbolique forte et permettrait d'adresser un signe clair aux auteurs et aux victimes de ces pratiques méconnues en France, mais qui semblent prendre de l'ampleur. On a une association les Bascos, qui ont dû lutter ardemment contre des évangélistes qui avaient débarqué. Qui semble prendre de l'ampleur, estiment Laurence Van Sennebroek et Bastien Lachaud. En revanche, les deux députés ne souhaitent pas adosser à cette interdiction de principe une peine spécifique pour ne pas niveler les condamnations, a expliqué Bastien Lachaud lors d'une conférence de presse. Il faut utiliser les autres textes du code pénal en fonction de la gravité des faits, certains allant jusqu'à des actes de torture, a-t-il ajouté. Les deux rapporteurs indiquent qu'ils déposeront une proposition de loi dans les mois à venir sur ce sujet. On les attend avec impatience, ils ont vraiment bien bossé.
Ah ben, en complément, si tu permets, Anne, on pourrait rappeler qu'il y a quelques mois, le Parlement européen a fait voter une résolution justement pour lutter contre ces thérapies de conversion. Juste rappeler quand même, on va parler des députés de France, que aucun député du Rassemblement national n'a voté contre a voté pour cette résolution visant à interdire les thérapies de conversion, et que parmi les Républicains, il y avait Nadine Morano et Rachida Dati qui ont aussi qui se sont abstenus de voter. Et il y a quelques heures, on a une nouvelle news par rapport à ce fameux Parlement, puisqu'il était question cette fois de voter en faveur d'une résolution sur la discrimination publique et le discours de haine à l'égard des personnes LGBTI, notamment dans les zones sans LGBTI. Alors ces zones sans LGBTI, c'est une référence à la situation en Pologne, où de plus en plus d'organisations locales se revendiquent comme zones sans idéologie LGBTI+. Parce que vous le savez, il y a quelques mois, ça fait pas mal de temps maintenant, il y a un canard polonais qui a sorti un autocollant avec un logo, genre ici, les LGBT n'ont pas leur place. C'était l'été dernier d'ailleurs. Et cet autocollant qui portait ce message, à l'initiative de l'hebdomadaire Gazeta Polska. Alors il a été revu en raison de ses connotations avec l'apartheid et la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands avaient créé dans la Pologne, en plus, occupée des espaces uniquement pour les Allemands. Mais cette résolution, donc, qui faisait référence à cette initiative, donc l'autocollant a été changé. Il y a de plus en plus d'organisations en Pologne et de commerces qui affichent cet autocollant. Donc le Parlement inquiète cette situation, a voulu voter cette résolution. Sachez qu'on apprend, donc il y a 8 heures précisément, la presse en fait l'écho seulement depuis ce matin, que parmi les élus français, on note évidemment qu'aucun député du Rassemblement National n'a voté pour cette résolution, et que parmi les Républicains, encore une fois, on en trouve un, François-Xavier Bellamy, le soutien de la Manif pour tous. Il s'est abstenu lui aussi de voter pour cette résolution, qui quand même, je vous le rappelle, elle tend juste à interdire la discrimination dans l'espace public de personnes comme nous. Voilà, donc ces députés ont préféré s'abstenir de voter pour cette résolution. Merci à eux et mauvais Noël.
On n'a pas fini de lutter, mon pauvre monsieur.
Non, en effet. Malheureusement.
Il y a toujours des nouveaux combats, remarque, au moins ça nous change.
Absolument. Alors j'enchaîne cette fois.
On est où là ?
Oui, je pense que c'est le moment. Et puis,
c'est le moment de l'asile.
Oui,
donc,
notamment.
Vous allez nous faire un bilan, je crois. Ben,
en fait,
un bilan annuel.
On va parler en effet de notre action. Mais avant cela, parce que quand même, il y a un max de news, et vous en avez fait la preuve là déjà, qui ne sont pas très réjouissantes. Mais comme c'est la fin de l'année, c'est notre dernière émission de 2019. D'ailleurs, on est un peu détendu. Vous avez peut-être entendu des téléphones sonner. On oublie tout. Il y en a même qui font leur gymnastique. C'est dommage que ce ne soit pas filmé. Vous pourriez sourire avec nous. On va essayer d'arranger ça pour l'année prochaine. Donc on aurait pu développer plein d'autres informations. On va les donner très brièvement, parce que vous en avez peut-être aussi déjà entendu parler. Comme celle qui est tombée le 2 décembre, qui nous apprenait qu'en Floride, un garçon de 10 ans avait été abandonné sur une aire d'autoroute parce que l'un de ses proches le suspectait d'être homosexuel.
On aurait pu vous rappeler que le 6 décembre, pour la première fois en Allemagne, et contrairement à Rachida Dati et Nadine Morano, les évêques allemands se sont positionnés contre la guérison de l'homosexualité. Ils estiment dorénavant que, dans la pensée de l'Église, cela signifie que toute forme de discrimination à l'égard des homosexuels doit être rejetée.
On aurait pu aussi revenir sur l'info du 8 décembre. Cette jeune femme transgenre à Bordeaux, agressée, rouée de coups par 4 trentenaires et jetée du haut d'une voie d'accès à un parking, une chute de 3 mètres, et vous dire que depuis, nous avons appris qu'elle comparaîtra en mars avec ses agresseurs parce que l'un d'entre eux a porté plainte après avoir reçu un coup de talon parce qu'elle se défendait. Et au chapitre agression homophobe, on aurait aussi pu ajouter l'info du 9 décembre qui nous nous apprenait que dans le 4e arrondissement de Paris, c'est un jeune homme rentrant chez lui après une compétition de handball qui s'est fait agresser et tabasser par 6 hommes juste parce qu'il est homo.
Toujours le 9 décembre, mais plus réjouissant et plus au nord, en Finlande, Sanna Marin, 34 ans, devenait la plus jeune première ministre de l'histoire du pays. Et alors, me direz-vous, rien, si ce n'est qu'en plus d'être la plus jeune chef d'État du monde, elle est la fille de deux mamans. Et dans Libération, on apprend que si elle s'exprime assez peu sur ce sujet, elle a quand même déclaré qu'elle a souffert, non pas de l'absence du père, mais du regard des autres. Je la cite, « Nous n'étions pas reconnus comme une vraie famille ou égale aux autres. C'est cette expérience qui aurait façonné son projet politique tourné vers l'égalité sociale, une valeur qu'elle considère comme étant au fondement de tout. » Et j'en profite pour souhaiter un joyeux Noël à la Manif pour tous.
Tu es vraiment trop bon, Mohamed. On aurait pu vous dire aussi que le 11 décembre, nous avons appris qu'au Nigeria, c'est une vingtaine de lycéens qui ont été exclus de leur école pour avoir reconnu des relations homosexuelles. Il faut dire qu'ils ont été exhortés à avouer sous la menace des pires châtiments. L'école fondée par la congrégation des fils de Marie, mère de la miséricorde, Sissi, se réjouit d'avoir fait le ménage dans ce pays qui condamne jusqu'à 14 ans d'emprisonnement tout acte homosexuel ou représentation de l'homosexualité.
On aurait pu vous parler de l'expédition d'une bande de jeunes identitaires dont certains seraient angevins, venus au Mans le week-end dernier pour vandaliser des bars et agresser leurs clients, dont ceux d'un bar LGBT. Stéphane Lefal, maire du Mans, parle d'actes très graves. On espère qu'ils seront poursuivis et condamnés. À suivre donc.
Absolument, on y reviendra certainement en début d'année prochaine. On aurait pu terminer par ces super brèves, par l'information du 14 décembre qui nous apprenait que le Gabon a discrètement modifié son code pénal pour institutionnaliser la répression contre les LGBT. Désormais, le code pénal gabonais prévoit 6 mois de prison et jusqu'à 5 millions de francs CFA pour lutter contre les actes homosexuels. Le Gabon devient donc le 70e pays du monde à rendre illégaux les rapports librement consentis entre personnes de même sexe. Et ça aurait été une transition parfaite pour vous parler de ce qui nous tient justement à cœur à quelques jours de Noël.
Parce que vous le savez, de par le monde, des centaines de milieux d'LGBT sont condamnés à vivre dans le silence et la peur. Beaucoup sont persécutés, emprisonnés et parfois même tués. C'est pour ça qu'à Quasar, il existe le groupe Droits des étrangers LGBTI+. Arnaud et moi pouvons vous en parler bien que des nombreuses autres actions de Quasar parce que nous sommes très mobilisés dans ce groupe droit des étrangers LGBTI+. Et si l'association existe depuis 25 ans, cette action d'accompagnement des personnes exilées et de défense de leurs droits n'a démarré qu'en 2011 sous l'action de notre saint à tous, Saint Bernard, Monsieur Bernard, comme beaucoup l'appellent, Bernard Moreau, le référent du groupe.
Oui, les premières années, Bernard Moreau œuvrait seul pour le droit des étrangers au sein de l'association, puis il a été rejoint par quelques bénévoles pour assurer des accompagnements dans les procédures de demande d'asile ou de titre de séjour. Sur ces dernières années, le groupe s'est renforcé et nous n'avons jamais été aussi nombreux à œuvrer pour les exilés LGBTI+. Alors on profite de cette dernière émission de 2019 pour faire un rapide bilan de l'année. Aujourd'hui, le groupe droit des étrangers LGBTI+, compte un véritable psy pour orienter et aider les personnes qui en ont besoin, ainsi que les volontaires du groupe. Et on va remercier les structures qui nous accompagnent aussi dans cette démarche.
On remercie aussi les bénévoles, comme tu l'as dit, de l'association d'aide aux victimes d'abus sexuels AVAS, qui ont accompagné eux aussi certains des personnes que l'on suit, ou encore l'association Étape pour l'hébergement. On remercie aussi les deux avocats avec lesquels on travaille le plus, Maître Rouleau à Angers et Maître Robineau à Paris, même s'ils n'ont pas le loisir de nous entendre ce soir.
Le groupe droit des étrangers LGBTI+, a accompagné en 2019 137 personnes dans leur procédure de demande d'asile. Beaucoup ont pu être assistés par un bénévole du groupe à l'OFPRA ou à la Cour nationale du droit d'asile, parfois simplement à la préfecture, aux plateformes d'accueil des demandeurs d'asile ou simplement chez un médecin spécialiste. Le groupe droit des étrangers LGBTI+, de Quasar, a collaboré à la constitution des dossiers de ces personnes, à réunir donc les pièces probantes, à faire le lien avec les avocats. On peut être fier du bilan de cette année. 38 personnes accompagnées par Quasar ont obtenu la protection de notre pays avec le statut de réfugié. Et pour près de 100 personnes, les procédures continuent.
Mais le groupe droit des étrangers LGBTI+, ce n'est pas simplement de l'accompagnement et du soutien. C'est aussi des moments de détente et de loisirs. Le groupe a proposé 15 après-midi loisirs cette année et nous espérons en faire plus l'année prochaine.
On se souvient des rencontres sportives de cet été, tu en as parlé tout à l'heure Mohamed, et on finira en beauté 2019 avec une visite du château d'Angers pour plus d'une dizaine de demandeurs et demandeuses d'asile.
Un groupe d'étudiants nous a proposé un partenariat avec le Chabada pour faire découvrir ce lieu culturel aux personnes que l'on accompagne. Et dès le début de l'année prochaine, elles pourront visiter les coulisses de cette célèbre salle angevine et participer à l'organisation des prochains concerts. Alors, on remercie Kezia et ses camarades de l'Université d'Angers.
Merci aussi aux administrateurs de l'association d'avoir soutenu le documentaire de Quasar qui donne la parole aux exilés, Enfants de malheur, le calvaire des exilés LGBTI+. Mille merci aux témoins du film pour leur courage. On embrasse Sidoine, Mike et Issa. Merci aux organisateurs de la Pride d'avoir choisi ce film pour ouvrir la semaine de la Pride avec une projection aux 400 coups et de s'être impliqué dans l'organisation de cet événement. Merci à toi Mohamed pour ce que tu as pu apporter à ce documentaire et de m'avoir accompagné à Pau, à Bayonne, à Saintes, à Angoulême pour le présenter. Et merci aux associations de ces villes d'avoir permis de montrer le film. Adeos, Les Bascos, Arcolane. Merci encore Mohamed pour ta chanson qui illustre avec tellement de force ce film. Et merci tout simplement d'être entré dans nos vies avec ton sourire, ton talent, ta gentillesse, ta lucidité et ta bienveillance.
Et enfin, on embrasse nos acolytes.
Bernard.
David.
Jean-Jacques.
Sophie.
Amélie.
Sylvia.
Gérard.
Javier.
Laurent.
Stéphane et Anne pour leur soutien au groupe.
Et bien sûr, tous les demandeurs et demandeuses d'asile, ou maintenant réfugiés, qui nous ont tellement apporté cette année encore. Merci pour la leçon de vie qu'ils nous donnent au quotidien, quand nous perdons le moral pour une petite contrariété, alors qu'ils vivent des galères pas possibles avec la peur du lendemain, même ici. Voilà, 2019 se termine et l'on sait déjà que malheureusement 2020 sera une année chargée. Alors si vous voulez soutenir nos actions et celles de l'association en général, n'hésitez pas. Contactez-nous, venez nous rencontrer pour proposer votre aide, que ce soit au sein du groupe Droits des étrangers LGBTI+, ou pour toutes les autres actions au sein de l'association, et elles sont nombreuses. Ou plus simplement, si vous voulez faire un don, je vous rappelle que les dons à Quasar sont défiscalisables, ce qui veut dire que si vous versez un don au profit de Quasar d'un montant de 100 euros, le montant de votre réduction fiscale s'élèvera à 66 euros. C'est encore possible jusqu'au 31 décembre de cette année, donc pour votre année fiscale 2019. Avec votre don, vous contribuez à la réalisation des missions d'intérêt général de Quasar. Vous lutterez contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Vous participerez à la défense pour l'égalité des droits. Vous favoriserez l'organisation de moments conviviaux et festifs ouverts à toutes et tous, ainsi que la Pride et la célèbre marche dans les rues d'Angers au mois de mai. Vous soutiendrez notre engagement auprès des demandeurs et demandeuses du droit d'asile pour les ressortissants d'États incriminant l'homosexualité. Et vous l'avez compris, vous soutiendrez notre engagement donc auprès d'eux pour la défense de leurs droits. Vous pouvez faire votre don par chèque à l'ordre de Quasar, envoyé à Quasar 15 rue de Jérusalem, 49 000 Angers. En retour, en début d'année prochaine, vous recevrez un reçu fiscal à joindre à votre déclaration sur le revenu de l'année écoulée. Vous pouvez aussi faire votre don en ligne. Vous trouverez le lien sur le site de Quasar, www.quasar.fr, à la rubrique « Faire un don ». Vous recevrez un reçu par courriel en retour. Et par avance, merci. Et joyeux Noël à toutes et tous.
Alors j'ai quelques merci justement avant qu'on ne passe à ajouter. Alors n'oublions pas non plus les membres du conseil d'administration dont Mohamed fait partie et qui ne font pas forcément partie du groupe Asile mais qui ont d'autres activités nombreuses dont nous vous reparlerons sûrement. Dorian, Benoît, Thomas qui a dû partir parce que ma foi il étudie à Nantes et c'est pas très pratique. Christelle, Bernie, Ludo et Sarah, l'actuelle présidente. Et n'oubliez pas que à ce propos, bientôt, il y a l'Assemblée Générale. Tous ces gens-là œuvrent pour vous, pour nous, pour les autres, pour le monde entier, parce qu'on aime bien le monde entier.
Voilà, petite pause musicale qui est très appropriée, même si c'est juste c'est le prénom d'une petite fille née sur un bateau. Mais c'est aussi le moment de passer cette chanson. Merci.
Je suis née ce matin, je m'appelle Merci. au milieu de la mer, entre deux pays. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin, je m'appelle Merci.
Avec nous encore à cette heure tardive sur l'antenne de Radio G pour l'émission Quasar on the Air. C'est maintenant au tour de Anne de nous parler donc d'une joueuse de foot qui fait parler d'elle justement, et ça fait plaisir. On t'écoute, Anne.
Et oui, et en fait, donc, comme le dit dans la chanson, Madame, Monsieur et les autres, bien entendu. Alors, qui est Megan Rapinoe? Qui n'a pas entendu parler de Megan Rapinoe? Sérieux. Elle est Ballon d'Or?
Ouais, oui.
Ballon d'Or, ça vous dit, les gars, quand même, ouais, ça vous parle?
Moi, ouais, pas.
Qui c'est qui est Ballon d'Or cette année?
Lionel Messi.
Voilà, Messi. Messi, hein, donc depuis 6 ans, je crois. Hein. Je crois que ça fait, ça doit être la 6e
ouais,
fois qu'il est Ballon d'Or, je crois bien.
6e, 5e,
alors, donc le journal France Football a créé, a créé un Ballon d'Or féminin.
Ouais.
En fait, il y a 2 ans. Et c'est Megan Rapinoe, après la Coupe du Monde de football féminine qui a eu lieu cette année en France. Mmh. Les Américaines l'ont gagnée contre les Hollandaises. Donc voilà, alors ça devient important, le football. Le football, bon, ça a été un sport de femmes pendant très longtemps en Amérique du Nord. Ça a été pas un sport du tout pour les femmes pendant très longtemps en Europe. Et puis, bah, plus ça va, plus ça monte. Par exemple, Lyon, l'équipe de Lyon, vous savez, l'Olympique Lyonnais,
oui,
le glorieux Olympique Lyonnais. Mmh. Bah, heureusement qu'il y a les femmes pour gagner les Coupes d'Europe et compagnie, parce que les hommes, ils s'en chargent pas de trop. Hein.
Et ce qui change aussi,
je voudrais pas avoir l'air de dire du mal, mais...
Et ce qui change aussi, c'est que les supporters de ces équipes féminines sont de plus en plus masculins. Et ça, c'est voilà,
bah,
ils le disent que techniquement, elles ont un jeu qui est vraiment... de très haut niveau, et donc les matchs sont plutôt intéressants à regarder, contrairement à ce qui était dit à une époque.
Ouais, c'est vraiment agréable. Et alors elles font un truc de fou dans le football, extrêmement rare dans le football. Quand elles tombent, elles se relèvent et elles repartent. jouer.
Bah oui, justement.
Alors donc voilà, nous n'avons pas de Neymar dans le football féminin.
Ça, voilà. Ça je le confirme.
Alors donc, Mégane. Alors Mégane nous vient des États-Unis. Alors elle vient des États-Unis et en plus d'un lieu aux États-Unis, d'une partie des États-Unis, de mineurs très 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 miniers et très de droite et très ils ont beaucoup voté Trump. Par exemple, hein, dans la ville d'où elle vient, ils ont voté pour Trump à plus de 65% pour une moyenne sur l'État qui était de 31%.
Ah wow.
Quand même. Donc c'est assez impressionnant. Ses parents toujours vécu là, travaillaient dans un restaurant. Ils avaient de nombreux enfants. Je vais pas vous faire le détail de toute la famille, on va pas s'en sortir. Mais bon, toujours est-il que Meghan a une jumelle qui s'appelle Rachel. Et les deux se sont mises au football. Elles ont aimé ça. Et c'est vrai que pendant très longtemps aux États-Unis et au Canada, le football, c'était un sport de filles. Mmh. Alors là-bas, on ne dit pas football, parce que le football, c'est réservé aux hommes, aux vrais, virils, armés avec des grosses armures, des gros casques, des gros trucs comme ça. Extrêmement viril.
Tu m'excites.
Extrêmement viril. Pour un jeu. Bon, je ne parlerai pas du football. Mais, je préfère le rugby en matière de jeux virils. Bon, et donc c'était vraiment un sport de femmes parce qu'il n'y avait pas de contact entre les hommes à se rentrer dedans avec sauvagerie et efficacité. Pas de hockey sur glace non plus, c'est le même principe mais avec des patins. Et donc le foot, ça a vraiment été, enfin notre football à nous, ça a été vraiment quelque chose de très très féminin. Enfin bon, elle jouait au foot, elle s'amusait les filles. Et c'est devenu de plus en plus important parce qu'il y a de plus en plus de licenciés. C'est des pays où il y a beaucoup de monde, donc forcément il y a de plus en plus de licenciés. Les filles courent après des ballons, 11 contre 11, etc. etc. Et ce qui est extraordinaire avec Meghan et sa sœur, surtout Meghan, c'est que dès adolescentes, elles ont fait partie d'une équipe qui est montée en flèche parce que Meghan et sa sœur étaient là. C'est-à-dire que ces filles avaient envie de bien jouer, mais ne savaient pas trop comment. C'était le championnat n'était pas très... Bon, et puis elles jouaient, c'était des gamines, hein, des moins de 16 ans. Donc, des équipes de moins de 16 ans. Et elles ont battu absolument tout le monde. Elles ont fait passer en moins d'un an l'équipe, en deux ans, de l'équipe de la 147e à la première place.
D'accord.
Parce que les filles jouaient très bien, mais elles avaient besoin de quelqu'un qui les emmène. Et Meghan Rapinoe, il suffit de la regarder sur des vidéos. Hein. Elle rit, elle chante, elle danse. Enfin, je veux dire, c'est une fille qui a l'air vraiment très sympathique. Et donc, elles deux, elles ont fait monter cette petite équipe et elles ont fini par être acceptées dans le championnat des grandes, donc des adultes. Et elles ont commencé à battre tout le monde là aussi, y compris des internationales, dès qu'ils faisaient partie de l'équipe de foot américaine. Donc, elles ont vraiment apporté, Meghan, surtout Meghan, elle a apporté quelque chose de frais et d'efficace dans le foot. La passion. La vraie passion est le fait de se dire que je peux jouer, je peux le faire et je vais m'amuser là-dedans. Et donc les femmes se sont mises à penser le football différemment et ça a fait penser beaucoup de gars le football différemment parce que c'est vrai qu'elles jouent un football qui est assez élégant. Elles ont cet avantage pendant la Coupe du Monde sur les autres équipes qu'elles arrêtent le championnat, elles sont plus du tout dans d'autres équipes pendant un an pour se préparer ensemble. Un an, elles sont ensemble tout le temps pour s'entraîner. Elles ne font que des matchs contre des autres équipes internationales ou des grosses équipes de pays, de villes. Ah oui. Et donc, pour s'entraîner pendant un an, elles s'entraînent pour la Coupe du Monde. Les autres, elles continuent à jouer dans leur club, etc. Et donc, elles se retrouvent moins de temps. Et c'est vrai que ça aide bien dans l'efficacité. Mais il faut voir des vidéos, elles s'amusent comme des cinglées. Elles s'amusent vraiment beaucoup. Donc, Meghan, c'est quelqu'un de très... Qui, qui est très allant et qui a des convictions fermement ancrées, et ce, depuis petite. Elle dit, enfin sa sœur, Rachel, c'est sa sœur jumelle, « L'homosexualité, mes parents n'en ont jamais vraiment parlé. En fait, tout le monde est hétéro autour d'elle. Et quand tout le monde est hétéro, bah, on ne parle pas d'autre chose. » C'est d'ailleurs qu'après avoir quitté Reading, donc cette fameuse petite ville, que la grande gueule du soccer, c'est vrai, dit avoir réalisé qu'elle était lesbienne. Elle a cessé de se questionner et s'est enfin sentie normale. Il y a une période où elle n'était pas vraiment elle-même, explique son amie et coéquipière dans son équipe de football à Portland, le Rain FC, Stéphanie Cox, qui la côtoie depuis les années du lycée. À la fin de l'université, elle savait qui elle était et ce qu'elle voulait être. Et ça, elle lui a donné confiance sur... Pardon. Comme en dehors du terrain. Elle n'arrivait pas à y attacher des mots. On a attendu un an, sourit Rachel, qui porte les cheveux courts et qui est plus discrète mais pas moins éloquente que sa sœur. On était toutes les deux nerveuses, on savait pas comment l'autre allait réagir. Et puis, comme de vraies jumelles, on a fini par se le dire en même temps. Elles sont toutes les deux lesbiennes. Parents. Et ce qui a inquiété les parents, ben écoutez, ce sera un autre épisode hein, de la vie de Rapinoe. Donc, on va le faire en plusieurs épisodes.
Ouais.
Hein, oui,
c'est
très
long.
Bien.
Alors donc, et ce qui a inquiété les parents, c'est très amusant. Parce que les parents, sa maman, donc Denise, dit « Avec son père, on avait peur que son coming out n'affecte sa carrière, ses contrats et son sponsoring. » Ce sont des gens attachés à la terre qui calculent. Et elle ne l'a jamais regretté. Et au contraire, ça s'est très bien passé. Et vous saurez la suite... une autre fois.
Justement, merci Anne. Oui, tu voulais commenter Mohamed.
Juste un petit truc parce que impatiemment voilà notre ballon d'or gay. Même si voilà peut-être avec le coming out ça va venir parce que il y a un joueur que j'adore beaucoup voilà je dirai pas son nom.
Oh ben si,
voilà.
S'il te plaît.
Tu dénonces
de Cristiano Ronaldo, vous voyez un peu. Ah. Mais peut-être que ça va venir ou qu'on aura un autre qui va avoir son ballon d'or comme voilà.
Attends, Cristiano Ronaldo joue comme une fille.
Bah, justement, c'est pas ça, partout on le dit. Hein. Ah bah, rien qu'à le voir physiquement, voilà.
Après, ce que je viens de dire, c'est vraiment pas une insulte. Réfléchissez 3 secondes.
Ah, oui, et puis les hétéros peuvent aussi prendre soin de leur personne et c'est peut-être le cas de Ronaldo. Hein. Voilà, ouais, donc,
quand même, il est bien bâti et tout, et voilà.
Okay. Quand on est bien bâti et qu'on prend soin de soi, on est forcément homosexuel. C'est ça, les gars. Si vous voulez pas être pris pour des homos, ne vous lavez plus, ne vous coiffez pas.
Non, mais c'est vrai que Ronaldo, on avait entendu.
Oui, il y a des polémiques. Il y a la chanteuse américaine Rihanna qui l'a attaqué. Hein, ça, voilà, qui voilà.
Ouais,
pour elle,
c'est
voilà,
vrai.
Mais des preuves selon elle que voilà, notamment.
Oui, il y a eu des photos volées où on le voit avec un ami boxeur, un Marocain qui est boxeur professionnel. On voit que les photos sont un peu troubles.
Mais on voit beaucoup de photos de lui avec des femmes qui ne sont pas particulièrement boxeurs professionnels, je crois.
Oui, oui, mais qui sont d'anciens mannequins, sans doute bien payés. Mais là, on est en train d'extrapoler, mais c'est n'importe quoi.
C'est incroyable, on était parti sur un truc sérieux, Megan Rapinoe, et vous réussissez à tout balancer avec l'autre qui joue comme une fillette, donc très bien.
C'était pas le café du commerce, c'est le café LGBT. Justement, en profiter là pour remercier aussi les partenaires hein, de Quasar dont l'insolite.
Ouais,
donc voilà, on les embrasse
et connaît sur Radio G.
Radio G et l'entre-deux aussi.
Et l'entre-deux, absolument. D'ailleurs, tu as tout à fait raison, Anne. L'entre-deux et puis on peut aussi citer le Delice.
Ben, le Delice qui est
entre deux.
Sûr que ça dure. Le Delice est entre deux.
Eh bien, en tout cas, tant qu'ils sont là, il faut les faire vivre ces commerces. Un dernier point pour vous dire que l'association vous propose de venir à la soirée conviviale demain, vendredi. Vous avez compris, on a changé d'adresse depuis quelques semaines. On se trouve maintenant au 15
rue de Jérusalem.
La soirée conviviale commence à 20h. 20h, donc au 15 rue de Jérusalem. Il vous suffit de vous présenter avec un petit truc à manger et à boire, à partager.
Ça peut être vraiment un sachet.
Noël à tous.
Ça peut être vraiment quelques clémentines, je veux dire. Vous n'avez pas besoin d'amener des gros trucs. Donc, joyeux Noël à tous. Venez nous voir. Le Père Noël sera chez nous. Et puis, l'année prochaine.
Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Et puis, on passe le relais. Restez sur Radio G.
À Thierry, à Sons of Blues, il est en train de s'installer, Thierry. Donc, attends, dans deux semaines, on est combien là ?
Eh bien là,
19,
dans deux semaines, nous serons le 3 janvier.
Le 3 janvier. Ouais. Alors, je vous signale qu'on n'aura pas d'émission le 12, pas la fois suivante, parce que la radio se déplace vers le Shabbat.